Mira. Tu passes à côté de quelque chose, là, du loup. C'est de ce côté qu'il faut regarder.
À l'œuvre. Comment se crée une œuvre d'art, une pièce de théâtre ou de danse? Dans cette chronique, des artistes ouvrent les portes de leur atelier et de leur univers. Aujourd'hui, l'atelier de Julien Nédélec, à Andrezé. Dans les Mauges.
Ah, c'est la campagne jusqu'au bout. Hein. C'est une ancienne usine de chaussures. C'est un atelier que je partage avec un autre artiste qui s'appelle Clément Lègle. En tout, l'atelier il fait 600 mètres carrés et c'est séparé en 400 mètres carrés vraiment pratique, fabrication et 200 mètres qui à terme seront des bureaux, stockage. C'est très grand. Bah, faut bien compenser le fait que ce soit à 45 minutes de voiture de chez moi. J'ai fini mes études aux Beaux-Arts de Nantes, parce que les études d'art se composent de deux parties, les trois premières années qui donnent un diplôme, donc qui est une licence maintenant, que j'ai fait à Angoulême, aux Beaux-Arts d'Angoulême, et je suis venu ensuite à Nantes pour finir mon cursus pour le master. Sur mes trois premières années d'études, j'ai quasiment fait que des livres. Je faisais des petites éditions avec mon imprimante et je les voyais comme un potentiel qui pouvait possiblement se développer en exposition, dans l'espace, en performance. Et justement, de changer d'école, je me suis dit, bah, je ne fais plus de livres. Bon, j'ai tenu 6 mois, mais j'ai quand même tenté et ça, je me suis mis à faire des œuvres en volume. C'est vrai que la sculpture devient assez présente dans mon travail. Même si souvent, quand je fais de la sculpture, je parle de peinture, et quand je fais de la peinture, je parle de sculpture, parce que j'aime bien jouer en fait, avec cette possibilité de traduction, de passage d'une forme à une autre, d'un état à un autre, et même d'un langage à un autre de façon plus générale, et donc de jouer avec ces petites transformations qui s'opèrent par une interprétation, quelle qu'elle soit. L'esthétique générale de mon travail pourrait se rapprocher d'une esthétique minimaliste historique avec ce qu'on appelle un finish fétiche, donc essayer d'avoir zéro défaut. Et en fait, ce fait d'arriver au zéro défaut, ça vient d'une incompréhension d'étudiant, puisque j'ai découvert très vite les minimalistes au cours de mon cursus des Beaux-Arts. J'ai tout de suite été attiré par ces formes simple avec une esthétique donc plutôt laquée ou des choses assez lisses où la main peut disparaître. J'étais resté dans cette idée très romantique que c'était les artistes qui produisaient leurs œuvres. Or, il se trouve que ils les faisaient produire justement par l'industrie et ils déléguaient. Donc de cette incompréhension, moi j'ai décidé de rester sur cette idée et donc de dans ce moment où tout peut être fait, on peut accéder à beaucoup de choses avec le numérique et autres. Je travaille aussi en amont en numérique, mais ça me semble important en fait, d'avoir ce travail d'atelier et de poser la question aussi du faire et de l'artiste en à la fois faisant les choses et en disparaissant derrière une finition qui ne se laisse pas voir. Des idées aussi quand j'ai un travail, c'est souvent l'occasion d'un apprentissage à la fois théorique, puisque je pars d'une idée, d'une intuition qui puisse être formelle ou plutôt de l'ordre de l'idée générale. C'est souvent une envie ou une intuition ou une découverte. Ça peut être quelque chose que j'ai entendu à la radio et donc voilà, et surtout que je travaille en écoutant la radio et plus particulièrement la radio qui parle parce que ça me fait une compagnie. Et aussi j'aime bien cette idée d'écouter des émissions qui a priori ne m'intéressent pas et qui peuvent à la fin m'intéresser ou pas. Et de quelque chose que j'entends qui semble m'intéresser, si ça me résiste un peu, le soir, je fais une petite recherche avec mon meilleur ami, le moteur de recherche, et je regarde un peu s'il y a des aspérités, quelque chose qui me plaît, ou alors d'un autre côté, ça peut être l'envie de travailler un matériau, de me dire, ah, j'aimerais bien justement apprendre telle technique, et donc de me dire bah, comment je peux l'intégrer dans mon travail. Et souvent, une rencontre se fait justement entre ces idées que je mets en jachère, qui sont écrites dans un carnet, que je ne regarde pas tant que ça. Je les regarde en fait quand on m'invite à une exposition et je les regarde pour un peu voir s'il y en a une que je reprends, mais au final, je crois que j'en prends pas tant que ça. C'est plus quand elle me résiste et qu'elle réémerge d'elle-même que c'est le moment de les mettre en œuvre. Et de ce point de départ, en fait, je cherche à apprendre le plus de choses possible. Et cet apprentissage, donc, j'aime à la fois que ce soit un apprentissage qu'on va appeler d'intellectuel. Ça peut être ce qu'on appelle des sciences populaires, des sciences dures, des sciences molles. Et d'un autre côté, apprendre des techniques. Je revendique le fait de faire des choses différentes le plus possible. Ça, c'est un projet qui va être sur des bâtiments à Nantes, dans le cadre du projet Un immeuble, une œuvre, la convention signée entre le ministère de la Culture et les promoteurs immobiliers. Ce sont des petites pièces en inox polymiroir qui seront accrochées sur les quatre façades des bâtiments et qui montreront quatre constellations qui sont visibles qu'une saison par an. Le truc, c'est que moi, j'aime bien que tout soit prétexte à réfléchir, quoi, de façon très simple, en fait. Il faudrait dire que j'ai rien d'un intellectuel, hein, quand je dis réfléchir, hein, je dis ça, je suis en code de travail, hein, j'ai une salopette de travail. Je suis un gros geek des outils, des petits accessoires, c'est que j'aime bien avoir plein de petits trucs, trouver des outils, enfin, ça fait vraiment partie de mon plaisir de l'atelier, d'avoir des objets que je suis content d'employer. Et à chaque fois en fait, que j'ai fait un travail d'étudiant alimentaire, j'ai toujours réussi à dégager une toute petite partie pour m'équiper en outils. Et donc à la sortie de l'école, j'étais déjà équipé. J'ai eu la chance d'avoir des bourses aussi qui sont arrivées au bon moment pour augmenter cet équipement. Et donc je pense avoir un vrai atelier et je peux faire, je crois, beaucoup de choses de façon autonome. C'est un petit peu un cocon, l'atelier. En tout cas, c'est un endroit où j'ai envie de me sentir bien, malgré la rudesse de l'espace, quoi. C'est plein de poussière. Il fait bon, mais il faut revenir au mois de décembre quand il fait la même température qu'à l'extérieur, voire plus froid, parce que si ça se réchauffe dehors, ça ne se réchauffe pas aussi vite à l'intérieur. Donc malgré cette rudesse climatique, on va dire, et de poussière où ça peut sentir aussi mauvais à cause des produits, j'ai besoin de m'y sentir bien et donc de l'investir complètement. Une bonne partie de la pratique d'atelier, c'est d'habiter l'atelier et donc de fabriquer des choses quand on n'a pas forcément un travail effectif à faire, c'est de le faire vivre. Et donc, moi, le moyen de les faire vivre, c'est que je fais des petites améliorations sur les machines, je fabrique des meubles, je me fabrique des rangements, voilà. Et ça me permet de réfléchir. J'aime avoir cette pratique quotidienne de l'atelier, donc de venir tous les jours, et notamment je viens très souvent quand je n'ai rien à faire, et cette procrastination active est je pense la base de la production de beaucoup d'artistes. Enfin, il y a besoin de ces temps de latence. Cette pratique d'atelier, c'est pas inné, quoi, c'est on l'apprend aussi, parce que c'est vrai qu'avoir un atelier à l'école, par exemple, c'est pas la même chose qu'à la sortie de l'école, parce que généralement ils sont pas à la même taille. À la sortie de l'école, on a généralement quelque chose d'assez petit pour la plupart des gens. Moi, j'ai eu la chance en fait de me lier d'amitié avec des designers qui s'appellent Fichtre. Je les ai rejoints dans leur atelier à la sortie de l'école où on partageait dans les Halles Alstom, donc à Nantes, un atelier de 600 mètres carrés déjà. Donc j'ai appris à voir trop grand à cette époque-là. Après, je me suis retrouvé dans un atelier de 40 mètres carrés, qui étaient les ateliers de la ville. Et pour le coup, j'étais trop à l'étroit. Mais c'est une vraie problématique et qui influe forcément sur ce qu'on produit. Voilà, c'est qu'au début, ma pratique, c'était sur sur mon ordinateur dans mon bureau, et donc les livres étaient un moyen de me poser toutes ces questions-là. Et puis j'ai toujours aimé, par contre, une autonomie de faire donc les choses tout seul, de rien avoir à attendre, de pas solliciter d'autres personnes pour produire, quoi. Si au maximum que je fasse les choses de façon autonome. Et donc voilà, j'avais cette pratique de bureau que je n'ai plus du tout. Un des trucs qui est marrant et qui peut être décevant pour des personnes qui viennent dans l'atelier, c'est comme on peut le voir, on ne voit pas mes boulots dans l'atelier puisque j'aime pas les avoir sous les yeux. Et puis comme je suis un peu maniaque, certaines, pour ne pas dire une grande partie de mes œuvres sont fragiles et elles sont toutes dans des boîtes. Et j'aime bien cette idée que les choses, elles sont là en attente et que je ne m'en lasse pas. Comme ça, je suis content de les réouvrir, de les redécouvrir quand j'ai l'occasion de les remontrer. Sur les caisses, en fait, je note le plus d'informations possibles. On voit le nom de l'œuvre, mon nom au cas où elles soient perdues, qu'on sache à qui elles sont sans les ouvrir, l'année, la taille de la boîte, la taille de la sculpture et, quand c'est une œuvre peinte, la référence de la peinture qui a été utilisée pour peindre, comme ça, ça simplifie les choses. Donc il y a cette partie ici qui est en attente. Sinon, la partie du haut, là, c'est plutôt ce qui est les arts imprimés, puisque je continue à faire quand même pas mal d'œuvres imprimées. Et donc, c'est le stockage de tout ce qui est posters, affiches, tirages, ou les photos encadrées. Et dans la première partie de l'atelier, il y a toutes les caisses de mes travaux qui sont là, parce qu'elles sont trop lourdes de toute façon pour qu'on puisse les monter sur la petite mezzanine dont je parlais. On va faire une petite maquette pour un projet dans l'espace public. Donc, je sors les plans du lieu et puis je vais essayer de voir comment je peux réaliser l'espace qui est un pilier de pont. C'est pour une œuvre à Saint-Nazaire. Et donc, je vais essayer de reconstruire ce pilier de pont pour après pouvoir faire la petite maquette qui me servira à la présentation de l'œuvre. Je vais faire des calculs. La chose importante, là, c'est d'une maquette, c'est choisir quelle échelle tu mets. Là, l'ensemble, en fait, va faire 28 mètres par 4 mètres. Donc, je pense que je vais faire en sorte que 28 mètres, ça soit plus qu'un mètre. Donc, on va aller voir ce qu'on a en bois dans notre petite réserve, qui sont en gros les chutes des projets. Il faut des petites chutes, des grosses chutes. 16,8. Donc ici, ça ferait 10,5. Je suis presque là. Et donc il faudrait que j'ai ça. Ah super,
quand on voit cette
émission scientifique, c'est celle que je préfère.
Le genre, en règle générale, de l'Uchronie par rapport au monde anglo-saxon, ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la bataille de Gettysburg et sur les guitaristes, qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce qu'on peut considérer une sorte de sentiment de cohésion plus fort par rapport à notre mythe?
Le truc, c'est que c'est très, très lent, la pratique d'atelier, comme moi je la fais. Donc, dans la même journée, je ne vais pas faire de la découpe, de la peinture et autres, parce que, en plus, il faut que l'environnement soit plus sain quand tu fais de la peinture. Normalement, il y a le fait de fabriquer une petite cabine de peinture, donc de faire une petite architecture d'intérieur à base de tasseaux et de polyane pour protéger de la poussière. Tu veux d'autres bruits ? Je peux te faire des plein de bruit. Hein. Faire une petite symphonie d'atelier, quoi. On branche toutes les machines à la Stockhausen.